Bien, si vous voulez, je continue donc le cours sur les processus multiphotoniques et je voudrais d'abord dire que je voudrais rapidement terminer la discussion des processus Raman stimulés parce qu'ils sont vraiment très importants. Puis je passerai au processus multiphotonique entre un état discret et un état du continuum, ce qu'on appelle ionisation multiphotonique, en regardant l'effet de la cohérence, les résonances intermédiaires, l'effet de la polarisation, l'effet du déplacement lumineux des états de Rydberg, l'ionisation au-dessus du seuil, l'ionisation multiple, la génération d'harmoniques très élevées. Il s'agit là d'un domaine de recherche extrêmement actif et où de nombreux résultats ont été obtenus au cours des dernières décennies. Puis, je mentionnerai également une tendance actuelle extrêmement intéressante, le développement de lasers de puissance, mais de table, des lasers de table qui peuvent tenir dans un laboratoire, qu'on appelle les amplifications d'impulsion à dérive de fréquence, et vous montrer qu'on tombe maintenant dans le domaine relativiste. Il faut absolument la relativité pour interpréter les expériences. Donc, je continue quelques discussions sur le processus Raman stimulé, et d'abord, je voudrais vous montrer que, appliquer l'idée de tout à l'heure de la Hamiltonie effective pour calculer le couplage effectif entre les deux niveaux d'une transition Raman. Alors, si on suppose qu'un seul état excité est prépondérant, les trois états du système atome plus photon qu'il faut envisager, c'est l'atome dans l'état F1 du bas, avec N1 plus 1 photon oméga 1 et N2 photon oméga 2. Quand un photon oméga 1 est absorbé, on passe de F1, N1 plus 1, N2 à EN1, N2, avec ce défaut d'énergie. Puis on émet de manière stimulée un photon oméga 2, on passe donc de EN1, N2 à F2, N1, N2 plus 1. Et voilà donc les trois états du système qui sont concernés. Celui-ci est non résonant, ce sont ces deux-là qui sont importants à résonance. La résonance Raman se produit quand ces deux états ont même énergie, c'est-à-dire quand EF1, EF2 moins EF1 est égal à H bar oméga moins H bar oméga 2. Et bien sûr, cette absorption ou émission stimulée est décrite par cette fréquence de Rabi, oméga 1, grand oméga 1, et cette absorption ou émission stimulée est décrite par cette fréquence de Rabi, oméga 2. Alors, si on se concentre sur cette multiplicité, d'après ce que j'ai dit tout à l'heure, l'Hamiltonien effectif dans cette multiplicité, c'est E1 et E2. Il faut ajouter en plus R1,1, R1,2, R2,2, R2,1, R1,2. Donc E1 et E2, c'est l'énergie des états non perturbés. R1,1, c'est le déplacement de l'état 1 dû au couplage avec l'état excité, c'est H bar oméga 1 carré sur 4 delta. R2,2, c'est la même chose, H bar oméga 2 carré sur 4 delta. Et le couplage non résonnant entre les deux états, on passe de l'un, on monte dans l'état intermédiaire avec la fréquence de Rabi oméga 1, on redescend dans l'autre état avec la fréquence de Rabi oméga 2. R1,2 égale R2,1 égale H bar oméga 1 oméga 2 sur 4 delta. Alors, si on suppose E1 plus R1,1 égale E2 plus R2,2, la condition de résonance Raman est satisfaite compte tenu du déplacement lumineux R1,1 de F1 et R2,2 de F2. Et à ce moment-là, on est ramené au problème d'un système à deux niveaux dégénérés avec un couplage non diagonal R1,2. Alors, dans tous ces problèmes qu'on utilise l'effet Raman stimulé, en général, c'est dans des problèmes d'optique atomique ou d'interférométrie atomique, il faut absolument éviter l'émission spontanée qui détruit la cohérence spatiale. Donc, je dis quelques mots sur la largeur radiative des niveaux F1 et F2. Le couplage oméga 1 entre F1 et l'état instable E confère au niveau F1 une largeur que j'ai discutée dans le cours 3 de la semaine dernière. Et cette largeur, c'est oméga 1 carré sur 4 delta, gamma sur delta, si gamma est très petit devant delta. De même, le couplage oméga 2 entre F2 et l'état instable E donne une largeur petit gamma 2 au niveau 2. Et on voit à ce moment-là que si la largeur naturelle de l'état excité est très petite devant le module du désaccord, et si oméga 1 et oméga 2 sont du même ordre de grandeur, R1,2, qui est oméga 1, oméga 2 sur 4 delta, quand je le compare à ces deux quantités, il est delta sur gamma fois plus grand, donc le couplage non diagonal entre les deux états est très très petit devant la largeur des niveaux, et à ce moment-là, on peut négliger l'émission spontanée, l'instabilité radiative de F1 et F2. Donc, pour avoir vraiment un problème, un Hamiltonien conservatif, sans émission spontanée, il faut absolument que le désaccord par rapport à l'état excité dans le processus Raman stimulé soit très très grand devant gamma. L'effet du couplage R1,2, là on peut encore le discuter un petit peu plus en détail, il n'y a pas seulement la largeur radiative des niveaux F1 et F2 dont il faut tenir compte. liés à l'excitation par les lasers oméga et oméga 2. Les niveaux F1 et F2 peuvent être soumis aussi à des processus dissipatifs de relaxation, et j'appelle grand gamma 1 et grand gamma 2 leur largeur totale, incluant les petits gamma 1 et gamma 2, petit gamma 2 les largeurs radiatives, et les autres causes d'amortissement. Alors, si grand R1-2 en module est grand devant gamma 1 et gamma 2, à ce moment-là, on a vraiment une oscillation de Rabi entre les deux états F1, N1 plus 1, N2, et F2, N1, N2 plus 1. On a vraiment un problème de conservatif. Si par contre, le niveau petit F2 a une largeur gamma 2 grande devant R1-2, par exemple, on peut volontairement ajouter un largeur résonant, ajouter un laser résonant qui excite les atomes à partir du niveau F2. Et si le niveau F1 est stable, à ce moment-là, on peut parler d'une probabilité de transition de F1, N1 plus 1, N2 vers F2, N1, N2 plus 1 avec un taux qui est le carré de l'élément de matrice R1 carré divisé par la largeur du niveau de final, gamma 2. Alors, ça c'est intéressant parce que ça permet de faire, qu'on fait une situation de ce type, ça permet de faire l'équivalent d'un système à deux niveaux, F1, F2, dont on peut ajuster la largeur du niveau F2 en jouant sur le laser résonant qui excite les atomes à partir de l'état F2, et on a un problème qui rappelle le problème de deux niveaux et un vrai fondamental, un vrai excité avec une largeur grand gamma en haut, simplement comme dans le refroidissement laser, la limite Doppler est de l'ordre de H bar gamma, où gamma est la largeur naturelle du niveau excité. Ici, on a un problème à deux niveaux effectifs, et on peut avoir une limite Doppler qui est déterminée maintenant par gamma 2, qui peut être beaucoup plus petite que le gamma d'un état excité. Donc ça, c'est une méthode, c'est pour ça que je la signale. Je voudrais maintenant passer en revue très rapidement quelques applications des processus Raman stimulés, parce qu'elles sont très nombreuses. Première application, très grande sélectivité en vitesse. Si les deux faisceaux oméga 1 et oméga 2 se propagent dans des directions opposées, et si les atomes sont préparés initialement dans l'état F1, les atomes qui subissent la transition Raman-résonante sont tels que EF1 plus H bar oméga 1 plus MV1 carré sur 2, l'énergie totale d'état initial, égale EF2 plus H bar oméga 2, le photon oméga 1 a disparu, le photon oméga 2 est apparu, plus MV1 plus l'énergie qui a été l'impulsion qui a été transférée, c'est H bar K1 moins K2 sur M, le tout au carré sur 2. Comme les deux fréquences oméga 1 et oméga 2 sont très proches l'une de l'autre, on peut faire l'approximation K1 à peu près égal à moins K2, de sorte que K1 moins K2 est de l'ordre de 2K1, et quand on reporte cette formule là-dedans, on trouve que EF1 plus H bar oméga 1 égale EF2 plus H bar oméga 2 plus KT recul plus 2 H bar K1 V1. L'effet Doppler est doublé. Mais vous voyez, maintenant, cette condition de résonance ne fait apparaître que des niveaux fondamentaux. Et les niveaux fondamentaux ont une largeur beaucoup plus petite que les niveaux excités. De sorte que la largeur delta V de la classe de vitesse résonante, compte tenu de cette équation, est de l'ordre de grandeur de 2K1 delta V, de l'ordre de gamma F, où gamma F est la largeur du niveau inférieur, qui est beaucoup plus petite que la largeur naturelle des niveaux excités. Si, par exemple, je prends gamma F 1 kilocycle, 10 puissance 3 secondes moins 1, 2 pi sur K1 lambda 1 micron, on trouve que la classe de vitesse qui est résonante a une largeur en vitesse de 0,1 mm par seconde. Donc les processus Raman stimulés permettent d'exciter une classe de vitesse extrêmement bien définie. Donc c'est un processus qui est extrêmement sélectif en vitesse et donc qui a des applications évidentes pour la spectroscopie. Deuxième application, lame séparatrice pour l'optique atomique. Si je parle de l'état F1P et qu'on applique une impulsion pi sur 2 résonante pour le processus Raman, après l'impulsion pi sur 2, le système est préparé dans l'état 1 sur racine de 2 F1P plus F2P plus 2H bar K1, puisque le transfert d'impulsion, c'est K1 moins K2, ce qui est de l'ordre de grandeur de 2K1 si les deux faisceaux laser se propagent en sens opposé. Alors vous voyez ce que je dessine ici, l'atome arrive F1P, il a les deux faisceaux Raman oméga 1 et oméga 2, et après l'impulsion pi sur 2, on a une superposition de l'état F1P et de l'état F2P plus 2H bar K1. On a donc une superposition linéaire de deux états qui diffèrent à la fois par l'état interne, F1, F2, et par l'état externe, 2H bar K1. On a deux ondes atomiques cohérentes, de directions différentes et d'états internes différents. On a, si vous voulez, en quelque sorte, une lame séparatrice pour onde de De Broglie. Alors, bien sûr, j'ai parlé déjà, je crois précédemment, de lame séparatrice utilisant une transition ordinaire, FE. Une transition ordinaire FE, où E est un vrai état excité, permet de réaliser la transformation FP égale 1 sur racine de 2, FP plus E plus, plus H bar K. Mais, dans ce cas-là, comme l'état excité E est instable, au bout d'un temps très court, cet état se débobine par émission spontanée, et la cohérence entre ces deux ondes disparaît. Par contre, dans le processus Raman, les deux états F1 et F2 sont des états fondamentaux, ils ont des durées de vie très très longues, et en plus le transfert d'impulsion est deux fois plus grand que pour une transition à un photon, puisqu'il est deux âges marquants. Et ça, c'est quelque chose qui a été proposé par Steve Chu et développé de manière intensive par son équipe. C'est une manière extrêmement commode de faire des lames séparatrices où les deux ondes de Debye qui sont séparées ont à ce moment-là des temps de cohérence extrêmement longs. Et donc ça, c'est très important pour l'interférométrie atomique. Un exemple d'interférométrie utilisant les ferments stimulés est le suivant. J'ai dessiné ici des atomes qui sont lancés vers le haut. Donc, en ordonnée, c'est l'altitude des atomes. En abscisse, c'est le temps. On part d'atomes de sodium, je crois, dans l'état F1, avec une impulsion P. Donc, leur altitude croît linéairement. Je néglige pour l'instant la courbure due à la gravité. À l'instant T égale 0, on fait une impulsion de pi sur 2. Donc, on sépare cette onde atomique en F1P et F2P plus 2H bar K. Après un temps grand T, on fait une impulsion pi qui transforme F1 en F2 P plus 2H bar K et F2 P plus 2H bar K en F1P. Et puis à l'instant 2T, on fait de nouveau une impulsion pi sur 2 qui mélange ces deux états. Et vous voyez qu'on a donc deux ondes de Debye qui suivent des trajets différents, qui sont surtout à des altitudes différentes et qui accumulent donc un déphasage différent lié à l'interaction avec le champ de pesanteur. Donc l'état d'interférence ici va dépendre du champ de gravité, et c'est un interféromètre qui permet de mesurer grand G, petit G. Et c'est l'expérience qui a été faite par Marc Kasevich et Steve Chu en 91 et que j'ai analysée en détail dans le cours au Collège de France de 92-93. C'est une mesure extrêmement précise de l'accélération de la pesanteur. Autre exemple d'application des processus Raman stimulés, mesure de spectre d'excitation élémentaire d'un condensat. J'ai dessiné ici le spectre de Bogoliubov des excitations d'un condensat qui part de manière linéaire ici avec une pente qui est égale à la vitesse du son dans le condensat et puis qui redevient parabolique ici. Et par une transition Raman stimulée, on peut partir de l'état P égale 0 et aboutir ici. Et on peut faire varier cet écart ici entre les deux faisceaux laser en variant l'angle entre les deux faisceaux laser, en ne prenant pas rigoureusement en sens opposé mais faisant un petit angle, on peut varier de manière continue le transfert d'impulsion et reconstruire la courbe de l'excitation élémentaire. Donc, cette méthode a été utilisée par Wolfgang Ketterle et son équipe au MIT et s'appelle également une diffraction de Debye. On peut aussi utiliser les ferments stimulés partant d'un état interne vers un autre état interne pour sortir d'un condensat une onde de matière cohérente avec une impulsion bien définie qui va être 2H bar K, qui est le transfert d'impulsion dû au processus Raman stimulé. Autre exemple d'application que je cite simplement ici, certains seront repris ultérieurement dans les cours suivants, les forces dipolaires. Les forces dipolaires que subissent un atome dans une onde laser inhomogène spatialement peuvent être interprétées comme une force de redistribution, l'atome absorbant un photon d'une des ondes planes formant l'onde laser et le réémettant de manière stimulée dans une autre onde plane. C'est ce qu'on appelle un processus de redistribution. C'est un effet Raman stimulé. Autre exemple, diffraction d'ondes atomiques par une onde laser stationnaire. Si on a une onde laser stationnaire et qu'on envoie un faisceau atomique perpendiculairement à cette onde laser stationnaire, l'atome peut absorber un photon dans une onde et le remettre de manière stimulée dans l'autre onde et subir ainsi une déflexion. Suivant que le faisceau laser est mince ou épais, on a un régime équivalent au régime d'une lame de phase mince ou d'une lame de phase épaisse, et on a deux régimes qui sont le régime de Raman-Nath et le régime de Braun. Autre exemple, le refroidissement Raman que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est équivalent au refroidissement Doppler sur une transition FE, mais ici le système à deux niveaux, c'est un système F1 et F2, et la limite Doppler H bar gamma F est beaucoup plus basse que la limite Doppler H bar gamma E pour un système à deux niveaux habituel. Autre exemple, le piégeage cohérent de population, ça j'y consacrerai un peu de temps dans les cours suivants, parce que c'est dans le processus Raman simulé, il y a des superpositions linéaires des deux états F1, N1, N2 plus 1, N1 plus 1, N2 et F2, N1, N2 plus 1 qui n'absorbent plus de lumière. C'est ce qu'on appelle piégeage cohérent de population, coherent population trapping, et qui a eu des applications extrêmement nombreuses. Bon, je passe maintenant à un autre sujet qui est les transitions multiphotoniques entre l'état fondamental et le continuum. Alors, ceci montre d'abord que la théorie simple de l'effet photoélectrique d'Einstein, dont on va bientôt célébrer le centenaire dans 2 ans, la théorie de l'effet photoélectrique, telle qu'elle est dite, n'est pas exacte. Tel que le dit Einstein, il est impossible de photoioniser un atome si la fréquence du photon qu'on envoie sur lui est plus petite que la fréquence d'ionisation. C'est pas vrai parce que l'atome peut effectivement passer de l'état fondamental au continuum en absorbant non pas un, mais deux, trois, quatre, cinq, six photons. C'est ce qu'on appelle l'ionisation à plusieurs photons. Et ces effets n'ont pu être observés que dans les années 66, 60, à la fin des années 60, quand des lasers déclenchés, suffisamment puissants, sont devenus disponibles. Et je crois que la première observation d'une ionisation à 7 photons de l'atome de xénon a été faite par deux physiciens russes, Delon et Voronov, en 66, suivi peu de temps après alors par le démarrage de l'équipe de Saclay, de Claude Manus et Gérard Minfray, qui a accumulé sur ce sujet une moisson particulièrement impressionnante de résultats. Ils se sont alors concentrés sur l'ionisation multiphotonique des gaz rares. Alors, ce petit schéma permet de comprendre très simplement ce qui se passe. Voici l'ionisation à un photon, voici l'état fondamental d'un atome, le continuum représenté de manière schématique de cette manière-là. Si l'énergie du photon est supérieure à l'énergie de l'ionisation, l'atome peut passer de l'état fondamental vers un état du spectre continu. Et l'énergie du photoélectron, c'est cette valeur-là. Ça, c'est la relation d'Einstein. Maintenant, l'atome peut passer de l'état fondamental à cet état du continuum en absorbant non pas un mais trois photons. Ici on est dans une situation où h bar oméga est plus petit que i, 2 h bar oméga est plus petit que i, mais 3 h bar oméga est plus grand que i. Ça c'est un processus d'ionisation à trois photons. Alors quels sont les paramètres qui influencent le taux d'ionisation à p photons? Il y a d'abord bien sûr l'intensité. Si on est dans un régime où on peut appliquer la théorie des perturbations, un processus déjà P photon, il faut intervenir P interaction, donc l'intensité va varier comme I à la puissance P, où P est l'intensité du laser. Et voilà par exemple un résultat du groupe de Saclay, où on voit avec un laser à néodyme de 1,17 électronvolts d'énergie pour chaque photon, voici la courbe pour le xénon, pour le krypton, pour l'argon, et si on regarde les pentes de ces droites soigneusement, on s'aperçoit que les pentes valent 11 pour le xénon, 13 pour le krypton, 14 pour l'argon. On porte ici la probabilité en fonction de l'intensité, en log-log, et ça montre donc qu'il y a 11 photons nécessaires pour le xénon, 13 photons pour le krypton, 14 photons pour l'argon. Donc ça c'est clair, c'est l'intensité. Deuxième paramètre important, c'est la cohérence du champ laser. Si le champ laser a une amplitude constante, ce que je viens de dire est exact, hein, c'est l'intensité, c'est bien défini. Si le laser est multimode et si son intensité fluctue, si par exemple j'ai une transition à deux photons, elle va être proportionnelle à i au carré, et la valeur moyenne de i au carré n'est pas la même que la valeur moyenne de i au carré, elle est plus grande. Donc si on porte la probabilité d'ionisation en fonction de l'intensité moyenne à la puissance p, on ne trouve pas un accord avec l'expérience. Il faut tenir compte du fait que le champ n'a pas une intensité constante, cette intensité fluctue, et que par conséquent, la probabilité d'ionisation va dépendre du nombre de modes qu'il y a dans le champ. Et cet effet a été étudié, parfaitement bien compris, le fait que I à la puissance K moyenne n'est pas égal à valeur moyenne de I à la puissance K, et donc c'est de la cohérence. Autre résultat important, quand on a par exemple une transition à deux photons, une ionisation à deux photons ici, il se peut qu'après l'absorption du premier photon, on soit pas loin d'un état excité discret. État excité discret qui a une largeur naturelle gamma. Il se peut d'ailleurs que quand on varie l'intensité du faisceau laser, cet état excité discret subisse des déplacements lumineux et que pour certaines valeurs d'intensité, il devienne exactement résonant. Donc on s'aperçoit que quand il y a des résonances intermédiaires, la dépendance avec l'intensité peut être assez complexe. Alors, si je prends une telle situation, où par exemple ici j'ai pris une transition à deux photons, une ionisation à deux photons avec une résonance intermédiaire à un photon, le propagateur de l'état intermédiaire, ça va être 1 sur EF, l'état initial, plus K' H bar oméga, plus un photon H bar oméga, j'ai pris K' égale 1 ici, moins EE, le dénominateur d'énergie, va être de cette forme. Mais alors il ne faut pas oublier que si l'état intermédiaire est instable, il a une largeur naturelle, il ne faut pas oublier de corriger son énergie par moins J fois la moitié de sa largeur. Donc l'énergie de l'état intermédiaire, c'est EE moins J H bar gamma sur 2, et le dénominateur d'énergie ici, c'est EF plus K' H bar oméga moins EE plus I H bar gamma sur 2, où gamma est l'énergie de cet état. Alors, l'interprétation à ce moment-là de la probabilité d'absorption, On peut dire des choses intéressantes, je crois. Si je reprends la même probabilité de photoionisation dans le cas particulier K' égale 1, K égale 2, avec une excitation résonante pour l'état intermédiaire, à ce moment-là, vous voyez, je pars de F, je monte dans E, un dénominateur d'énergie oméga moins oméga 0 plus I gamma sur 2, où oméga est la fréquence du photon, oméga 0 c'est la fréquence de bord de la transition FE, on est à plus I gamma sur 2, gamma l'énergie de E, puis on part de E, on va à C, C étant l'état du continuum. Donc ça vaut VFE, VEC, deux éléments de matrice de V, divisé par un dénominateur d'énergie qui, si je suis exactement en résonance, oméga égale oméga 0 est égal à I gamma sur 2. Vous voyez, si je n'avais pas mis gamma, j'aurais quelque chose de divergent. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a la largeur du niveau intermédiaire. Alors, le taux de transition pour aller de F à C, c'est le carré de l'élément de matrice pour aller de F à C, à FC carré, que multiplie rho, la densité d'état, dans l'état final, et C, rho de EC. Ça, c'est la règle d'ordre des Fermi. J'ai laissé tomber les deux pi sur F bar. Hein. Je regarde uniquement les choses importantes. Donc, c'est AFC carré, rho EC. Maintenant, AFC, c'est VC et VEF sur I gamma sur 2. Quand j'élève au carré, je vais avoir VC carré, 1 sur gamma 2, je laisse tomber le 4, VEF carré, rho de EC. Et ça, je peux l'écrire VEF carré, que multiplie 1 sur gamma, que multiplie VEC carré, rho EC, que multiplie 1 sur gamma. Or, VEF, plutôt VFE au carré, 1 sur gamma, je pars de F, je vais dans E, carré d'éléments de matrice, je divise par gamma, or 1 sur gamma c'est la densité d'état de l'état intermédiaire, donc ceci, c'est la règle d'ordre de Fermi, me permettant de calculer le taux de transition de l'état F vers l'état résonant intermédiaire. Donc le taux de transition de F vers C, c'est le taux de transition de F vers l'état intermédiaire que multiplie ce deuxième terme, qui est VEC carré rho de EC. Ça, c'est le carré d'élément de matrice, la densité d'état. Ça, c'est le taux de transition de E vers C, de l'état intermédiaire vers le continuum. Et puis, j'avais 1 sur gamma 2, j'en ai pris 1 ici, il m'en reste 1 ici, je multiplie taux. Et l'interprétation de cette formule maintenant est très claire. Elle montre que quand il y a un état résonant intermédiaire, le processus est un processus en deux étapes. L'atome passe de F à E avec un taux de transition VW. FE, VEF carré qui multiplie 1 sur gamma. Et une fois qu'il est dans E, il passe de E vers C avec un taux de transition qui est WEC, avec une probabilité, pardon, la probabilité qu'il passe dans C, c'est le taux d'ionisation à partir de E, WEC, qui multiplie le temps pendant lequel il reste dans E qui est 1 sur gamma. 1 sur gamma, c'est taux. Donc, l'atome passe dans E avec un certain taux, et une fois qu'il est dans E, la probabilité qu'il passe dans C, c'est le taux de transition vers C que multiplie le temps qui reste dans E, qui est le temps 1 sur gamma, le temps dit de l'état excité. On voit clairement apparaître ici une probabilité de transition en deux étapes. PEC égale WC que multiplie le taux. Alors, il y a aussi une autre approche que l'on utilise parfois pour discuter ce genre de problème, c'est de résoudre l'équation pilote pour la matrice densité. Et à ce moment-là, quand on fait ça, chaque fois qu'on fait une interaction avec le champ de radiofréquence dans la matrice densité, il y a deux indices, rho ij, et on change soit i soit j, et chaque fois qu'on fait interagir l'atome avec le champ, on change soit i soit j. Donc on part de rho ff, l'atome dans l'état fondamental, une interaction passe à rho fe, une autre interaction passe à rho ee, puis rho ec, puis rho cc. Donc on passe de rho ff à rho cc par ce chemin. Et dans le chemin d'ordre 4, il y a 1, 2, 3, 4 interactions, on passe intermédiairement par rho ee. Ça c'est le processus en deux coups, en deux étapes. Mais on peut aussi parler de ρff à ρfe, puis ρfc, puis ρec, vous voyez, chaque fois je change qu'un nombre quantique, et ρcc, ça c'est un chemin d'ordre 4 qui ne passe pas par ρe, ça c'est l'ionisation à deux photons directs sans passer par un état intermédiaire. Et ces deux processus en général sont présents et ils interfèrent. Autre exemple de processus multiphotonique en deux étapes, c'est ce qui se passe quand on fait de la fluorescence de résonance au voisinage d'une résonance atomique. Quand on fait de la fluorescence de résonance, là on a absorption d'un photon, émission spontanée d'un photon, alors le plus bas, voilà l'état fondamental, l'état excité, de largeur gamma, ça c'est ce qu'on appelle la diffusion Rayleigh. Le photon émis est à la même fréquence que le photon incident. Mais si on va un cran plus loin dans la théorie des perturbations, on peut avoir un processus à trois photons, à 4 photons, pardon, absorption d'un photon oméga L, émission spontanée d'un photon oméga A, absorption d'un photon oméga L, émission spontanée d'un photon oméga B. Alors évidemment, la conservation de l'énergie implique que oméga A plus oméga B égale 2 oméga L. Mais vous voyez que il y a un premier état intermédiaire, un deuxième état intermédiaire, un troisième état intermédiaire. Le troisième état intermédiaire peut être résonant si à l'issue de ce zigzag, c'est-à-dire si oméga 0 est égal à 2 oméga L moins oméga A est égal à oméga 0, à ce moment-là, le troisième état ici intermédiaire est résonant. Et à ce moment-là, c'est les deux photons qui sont émis oméga et oméga B, c'est un processus en deux étapes. Il y a une première étape qui dure un temps de l'ordre de 1 sur le désaccord, absorption de photons, émission d'oméga, l'atome arrive dans E. Et puis, deuxième étape, l'atome tombe par émission spontanée de l'état E vers l'état F en émettant spontanément le photon oméga B. Donc, ce petit schéma, et ce que je viens d'expliquer juste auparavant, permet de concevoir que le photon oméga est émis d'abord en un temps très bref qui est de l'ordre de 1 sur le désaccord, et ensuite l'atome est préparé dans l'état excité. Il faut attendre un temps de l'ordre de 1 sur gamma pour que le deuxième photon soit émis. Alors, c'est une expérience que nous avons faite il y a une dizaine d'années avec Alain Spé, Gérard Roger, Serge Reynaud, Jean Balibar, à Orsay, à l'Institut d'Optique Orsay, où avec deux photomultiplicateurs et une corrélation de photons, on regarde la corrélation temporelle entre le photon oméga et le photon oméga B, en mettant des filtres interférentiels devant les photomultiplicateurs qui isolent soit oméga 1, soit oméga B. Et vous voyez clairement que la probabilité de détecter oméga B après avoir détecté oméga A est une exponentielle qui a pour largeur, qui a pour temps de décroissance la durée dite de l'état excité. Autrement dit, il y a le photon oméga qui est détecté d'abord, c'est un processus, et ensuite il faut attendre un temps de l'ordre de 1 sur gamma pour détecter le deuxième photon. Donc il y a des corrélations temporelles entre les photons oméga et oméga B dans ce processus non linéaire. Je continue la liste des paramètres qui influent le taux d'ionisation, la polarisation. Là, c'est les règles de sélection sur la polarisation qui interviennent, et quand on les combine avec les règles de sélection sur la parité, si on a des transitions dipolaires électriques, on voit que suivant que la transition, le faisceau laser est polarisé en sigma plus ou en sigma ou en pi, les chemins ne sont pas les mêmes. Par exemple, si on a un faisceau laser polarisé en sigma plus, partant de S1,5, on est obligé d'augmenter le 1,5 d'une unité, donc on est obligé de passer dans P3,5 parce qu'il faut passer de S à P, et il faut augmenter le nombre quantique magnétique d'une unité, puis de P3,5 on est obligé de passer dans D5,5, puis D5,5, F7,5. On a un seul chemin possible, parce que chaque fois on a la règle de sélection delta m égale 1, et puis il faut changer de parité. Si on a un faisceau laser pi, partant de S1,5, on peut bien sûr aller à P3,5, mais aussi on peut aller aussi à P1,5. Et puis après de là, on peut aller à D3,5, D5,5 ou S1,5, et ainsi de suite. On voit qu'il y a d'autres chemins possibles, et que suivant le chemin qu'on prend, il peut y avoir des résonances intermédiaires ou non, et les amplitudes ne sont pas les mêmes, donc le taux de photo-ionisation est très sensible à la polarisation du faisceau laser incident, parce que les états intermédiaires qu'on explore ne sont pas les mêmes. Alors, autre surprise dans ce domaine de recherche, c'est qu'on s'est rendu compte que l'atome, une fois qu'il était ionisé, pouvait continuer à absorber des photons et qu'il pouvait se produire des transitions entre états du continuum. Transitions multiphotoniques entre états du continuum. Autrement dit, les photoélectrons quittent l'ion dans une transition multiphotonique N avec une énergie cinétique NH bar oméga moins I, N étant le nombre minimum de photons pour ioniser l'atome, et ensuite, les photoélectrons qui sont créés continuent d'interagir avec le faisceau laser. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Et d'abord, ils continuent d'interagir, ils vont se mettre à vibrer dans le champ de fréquence. Ils vont acquérir une énergie cinétique de vibration, qui est l'énergie cinétique de vibration que j'ai abondamment discutée dans le cours de la semaine dernière, que j'avais appelée EV, et puis ils peuvent continuer à absorber des photons. Alors, a priori, qu'on dit ça, on dit c'est une stupidité, parce qu'un électron libre ne peut pas absorber un photon. Parce que si on a un électron libre, on peut pas. Si on fait un diagramme EP, on a une parabole, on part de le point de la parabole, et si on absorbe un photon, on prend une ligne droite, on ne peut pas retomber sur la parabole. Donc on ne peut pas conserver l'énergie de l'impulsion lors de l'absorption d'un photon par un électron libre. Mais il ne faut pas oublier ici que les électrons qui viennent d'être créés sont encore sous l'action de l'ion. Ils ne sont pas libres. Et l'ion peut encaisser le recul nécessaire pour assurer la conservation de l'énergie et de l'impulsion. et l'électron peut continuer à absorber un photon. Alors, c'est un effet qui est bien connu, quand on envoie un électron sur une charge, l'électron peut être ralenti et émettre, c'est ce qu'on appelle le bremsstrahlung, le rayonnement de freinage, et la même chose quand il y a un laser en présence, quand il est dans le champ électrostatique de l'ion, il peut absorber des photons, il peut être accéléré, c'est ce qu'on appelle le bremsstrahlung inverse. Donc, l'électron qui vient d'être créé par l'ionisation multiphotonique peut continuer à absorber des photons. Et on appelle ça ionisation au-dessus du seuil, en anglais above threshold ionization ATI. Et c'est défini ici ce qui se passe. Donc on a ici une ionisation à 4 photons, puis on absorbe un cinquième photon, puis un sixième. Et on voit apparaître donc des photoélectrons avec des énergies cinétiques, E1, E2, E3, E1, 4H bar oméga moins EI, 5H bar oméga moins EI, 6H bar oméga moins EI. C'est-à-dire qu'on voit apparaître un spectre d'énergie des photoélectrons, une série de pics équidistants et séparés de H bar oméga. Et la première observation de cet effet a été faite à Saclay par Pierre Agostini, François Fabre, Gérard Minfray, Gérard Petit et Nissim Raman en 1979. Alors, ici, il faut faire attention. Il faut discuter de manière un peu plus précise la conséquence du mouvement de vibration. Comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière dans le cours 4, tous les niveaux d'énergie de l'atome, près du continuum, les niveaux de Rydberg qui sont faiblement liés, dans le champ de l'onde laser, qui est haute fréquence pour eux, sont tous déplacés, y compris le continuum, par l'énergie cinétique de vibration EV. À des éclairements laser de l'ordre de 10 puissance 13 watts par centimètre carré, qui sont couramment atteints, et pour des fréquences laser de l'ordre de 1,17 électronvolts, laser à néodyme, l'énergie de vibration peut atteindre quelques électronvolts. Donc elle n'est plus du tout négligeable, c'est plus le domaine du Hertz ou du gigahertz. Elle atteint l'électronvolt. Nous verrons encore plus tard, tout à l'heure, qu'elle atteint aussi des fois le mev. Donc l'énergie d'ionisation de l'atome est augmentée, de l'EV, et on s'attend à ce que l'énergie cinétique du mouvement, j'appelle mouvement lent de l'électron. Vous voyez, l'électron quitte l'ion avec une vitesse moyenne, et puis il vibre autour de cette vitesse moyenne. J'appelle le mouvement lent, c'est sa vitesse de sortie, et le mouvement rapide, c'est le mouvement de vibration. Donc l'énergie cinétique du mouvement lent de l'électron va être égale à NH bar oméga moins EI moins EV, parce que maintenant l'énergie de l'ionisation n'est plus EI, mais EI plus EV. Elle est plus petite donc que celle calculée en l'absence de vibration, qui est NH bar oméga moins EI. Alors ceci, je l'explique ici plus clairement. Si je prends en abscisse la position sur une droite qui traverse le faisceau laser à angle droit, donc l'intensité est nulle ici, elle croît et puis elle décroît quand je traverse le faisceau laser, l'énergie de vibration est nulle ici, elle augmente et puis elle décroît, donc le continuum d'ionisation va être déplacé de cette manière. Et un électron qui est ionisé en ce point va ici sortir avec cette énergie cinétique et C1. Qui est l'énergie après le nombre de photons qui est nécessaire pour sortir, moins l'énergie d'ionisation corrigée par l'énergie de vibration. Et puis, si quitte l'électron, cette énergie EC1 n'est pas la même que EC2 qui existerait s'il n'y avait pas d'énergie de vibration. Donc, EC1, c'est l'énergie cinétique du mouvement lent avec EV différent de 0, et EC2, c'est l'idem avec EV égale 0. Alors, est-ce qu'on peut observer cet effet? Alors, la réponse est oui, mais il faut faire attention. En effet, quand on détecte l'électron qu'on va mesurer, il n'est pas détecté dans le faisceau laser, le photoélectron. Il est détecté sur le compteur, sur le détecteur d'ions d'électrons qui est à l'extérieur du faisceau laser. Donc l'électron sort du faisceau laser. Alors, dans le faisceau laser, il a cette énergie de vibration, EV au point X, mais qui apparaît en quelque sorte comme une énergie potentielle. J'avais expliqué la dernière fois comment les forces radiatiques pouvaient être considérées comme un déplacement lumineux dépendant de la position, et donnant naissance à une énergie potentielle EV de R qui dépend de la position. Donc, à cette énergie potentielle dépendant de la position est associée une force qui est moins gradient de EVI, qu'on appelle la force pondéromotrice. Et sous l'effet de cette force, l'électron, quand il va quitter le faisceau laser, il va être accéléré, il va regagner, quand il sort de l'électron, quand il sort du faisceau laser, la perte d'énergie liée à son mouvement de vibration. Il va être réaccéléré et réobtenir exactement la même énergie cinétique qu'il aurait eu s'il n'y avait pas eu d'énergie de vibration. Donc vous voyez, il faut faire attention. Il faut. Donc on s'attend finalement qu'il n'y ait pas d'effet, mais à condition bien sûr que l'impulsion laser dure suffisamment longtemps pour que l'atome ait le temps de sortir du faisceau laser avant que l'intensité du faisceau laser ait changé de manière importante. Donc il faut que l'impulsion laser dure suffisamment longtemps pour que l'électron créé à l'intérieur du faisceau laser ait le temps de sortir du faisceau laser avant que l'intensité laser n'ait disparu. Donc on prévoit qu'il va y avoir des effets différents suivant que le faisceau d'impulsion laser est courte ou longue. Si l'impulsion laser est longue, le champ laser ne sort pas, ne change pas pendant le mouvement de sortie de l'électron, et le mouvement lent de l'électron a le temps de regagner l'énergie prise par le mouvement rapide de vibration au point où le photoélectron a été créé, et donc le spectre d'ionisation au-dessus du seuil est le même que celui qu'on calculerait si on ignorait complètement l'énergie de vibration. Par contre, si l'impulsion laser est courte, le photoélectron est créé, et avant qu'il ait le temps de sortir et de sentir la force ponderomotrice, l'impulsion laser disparaît, donc à ce moment-là, toutes les énergies du pic du spectre de ionisation au-dessus du seuil sont toutes diminuées de EV. D'accord, donc vous voyez, c'est un effet assez subtil, mais il a été observé. Voilà, toujours par la même équipe à Saclay. Voilà un spectre de photo-ionisation au-dessus du seuil, avec une impulsion laser de 136 picosecondes. Et puis on l'a réduit à 50 picosecondes, et vous voyez que toutes les pics sont déplacés vers la gauche. Donc toutes les énergies des photoélectrons sont plus petites, c'est parce que effectivement le seuil d'ionisation a été remonté. Donc plus on raccourcit l'impulsion laser, plus l'énergie, l'ensemble des pics de photoionisation est déplacée vers la gauche. Autre effet très amusant qui est apparu encore quand on a su encore faire des impulsions de plus en plus courtes, c'est ce qu'on peut appeler une structure fine des pics d'ionisation au-dessus du seuil. Je me souviens que j'avais invité ici au Collège de France en 87, l'un des auteurs de cette découverte, qui était Dick Freeman, et l'idée est la suivante. Quand on a une impulsion, l'intensité laser change au cours du temps. Les énergies des états de Rydberg de l'atome, 5S, 6S, 7S, par exemple, sont montées, et au cours du temps, il peut arriver que l'un des états de Rydberg devienne résonant avec un nombre de photons inférieur à celui qu'il faut pour ioniser l'atome. On peut avoir une résonance intermédiaire induite par la lumière, parce que le déplacement lumineux de l'état de Rydberg est suffisant pour amener la condition de résonance. À ce moment-là, le processus va être beaucoup plus probable, il va y avoir plus de photoélectrons. Et puis, quand l'intensité laser continue à augmenter, un autre niveau de Rydberg peut entrer en résonance avec le faisceau laser, parce que son déplacement lumineux a atteint la bonne valeur, et on va avoir un deuxième pic. Et on voit donc qu'on va avoir dans les pics de photoélectrons qui sortent, une structure fine qui reproduit le spectre des états de Rydberg. Et cet effet a été observé avec des latitudes picosecondes. Je crois que le plus simple, c'est de prendre une figure. Voilà ici, maintenant, en axis, le temps, et en ordonnée, les énergies de l'état fondamental qui n'est pas perturbé, et puis des états de Rydberg qui sont ici, qui vont monter, parce que quand le faisceau laser, l'intensité augmente, comme ça, le niveau de Rydberg EA est déplacé comme ça, le niveau de Rydberg EB est déplacé comme ça, et ainsi de suite. Et le continuum comme ceci. Alors, vous voyez qu'à cet instant-là, à l'instant TB, ici, à l'instant TB, le niveau de Rydberg B est en résonance avec l'absorption d'un nombre discret de photons laser. À ce moment-là, il y a un pic de photoélectrons qui va sortir, avec une énergie cinétique qui est égale à ECB, qui est un photon de plus, moins l'énergie de vibration correspondant à cet état. D'accord ? Si j'ai un instant ultérieur TA, ici, ça va être au contraire maintenant le niveau EA qui va être résonant, avec le niveau EA déplacé qui va être résonant avec le nombre de photons qui est indiqué ici, et par conséquent, il va y avoir un pic de photoélectrons avec une énergie cinétique qui est cette valeur-là. Et nous voyons que les deux pics de photoélectrons, EC de TA, EC de TB, n'ont pas la même grandeur, hein, n'ont pas la même énergie. Et puis les mêmes phénomènes vont se produire pour tous les autres états, et puis aussi quand ça va redescendre. Et effectivement, voilà un spectre un spectre tiré d'une revue du CEA, donc de l'équipe de Dick Freeman, où on voit l'énergie cinétique des photoélectrons, ça c'est les pics de l'ionisation au-dessus du seuil, un pic, le deuxième pic, le troisième pic, mais vous voyez que chaque pic contient lui-même une série de sous-pics correspondant aux états 4F, 5F, 6F, 7F, et puis il se répète ici 4F, 5F, 6F, donc on voit apparaître ces résonances intermédiaires liées au fait que, à cause des déplacements lumineux des états de Rydberg, les états de Rydberg entrent en résonance successivement avec un nombre plus petit de photons que celui nécessaire à l'ionisation à des instants différents. Autre phénomène qui a été étudié en particulier à Saclay, toujours à Saclay, c'est l'ionisation double. Un atome peut, à plusieurs électrons, on peut avoir un électron éjecté par un processus multiphotonique, mais on peut avoir aussi deux électrons éjectés simultanément par un processus multiphotonique. On peut aussi avoir un atome éjectant un premier photon devenant un ion, et l'ion éjectant, lui, subissant lui-même une ionisation multiphotonique, éjectant un deuxième électron. Autrement dit, l'ionisation à deux électrons, l'ionisation multiphotonique à deux électrons, peut être soit directe, les deux électrons sont émis simultanément, soit en cascade. Un premier photoélectron est émis, puis un deuxième. Et voici par exemple des expériences faites par Anne Huillier, et puis toujours Gérard Mainfray, Comanis, Lampré, avec des impulsions de durée différentes, où on voit ici l'ionisation à un seul photoélectron qui est émis. L'ionisation à un photon nécessite 6 photons, donc la pente ici est égale à 6, on passe de xénon à xénon plus, et ici, la pente est égale à 15 parce qu'on passe directement du xénon au xénon de plus, à 15 photons. Alors, vous allez me dire, à quoi correspond cette courbure ici? C'est pas une saturation, c'est pas c'est un effet trivial, c'est le fait qu'on a épuisé le nombre d'atomes qu'il y a dans la région focale du laser, on a épuisé tous les atomes. Il n'y a plus assez d'atomes pour former, on a ionisé tous les atomes. Donc c'est ce qu'on appelle un effet de saturation. Ça, donc, pour une impulsion très courte, on a à la fois l'ionisation simple et l'ionisation double, qu'on distingue par la pente. Quand la durée d'impulsion est plus grande, on voit toujours l'ionisation à 6 photons simples, et puis on voit ici un début d'ionisation double, mais quand on arrive dans la région de saturation de l'ionisation à un photon, on voit apparaître ici une droite de pente 10, qui est le passage de xénon plus à xénon de plus, ça fait les ions qui ont été formés ici, qui sont saturés, après l'ionisation A, l'ionisation simple, subissent une deuxième ionisation, et ça c'est donc une ionisation en cascade. Et si on est à des impulsions encore beaucoup plus longues, 200 picosecondes, on a toujours l'ionisation simple, ici, et puis l'ionisation double, ici, l'ionisation qui donne deux électrons, mais en cascade. La pente ici est de 10. C'est-à-dire que c'est les ions qui ont été créés après l'ionisation simple, qui sont ionisés une deuxième fois et qui donnent l'ionisation double. Donc c'est un processus d'ionisation simple, puis une deuxième ionisation. Donc ça aussi, c'est des processus très intéressants, parce que pour comprendre l'ionisation multiple, il est nécessaire de tenir compte des corrélations qui existent entre le mouvement des électrons. Autre grand sujet de recherche qui s'est développé donc dans ces problèmes, c'est l'ionisation d'harmonique. La première expérience qu'a donnée l'observation d'une harmonique, c'est Franken, qui l'a fait, Peter Franken, en 61, au tout début du laser. Et il était capable de montrer qu'un laser à rubis dans un cristal de quartz doublait la fréquence, montrait la génération d'harmonique 2. Puis, avec le développement des impulsions laser intenses et ultra-brèves, on a pu observer la génération d'harmoniques d'ordre élevé dans des gaz rares, pas dans des substances solides comme un rubis, comme un cristal de quartz. Et je donne ici, par exemple, une harmonique d'ordre 5. La génération d'harmoniques d'ordre 5, c'est un processus où on a 5 photons qui sont absorbés et un photon de fréquence 5 fois plus grande qui est émis. Il y a évidemment consommation de l'énergie. Et on voit en fait que les harmoniques impaires, parce que pour un atome libre, il y a la symétrie de réflexion, et la susceptibilité non linéaire permettant de comprendre la génération d'un harmonique est nulle si le nombre de photons est pair, parce que la parité ne serait pas conservée dans ce cas-là. Alors, comment on fait l'étude expérimentale de ces générations d'harmoniques? Figure extraite d'un article de revue de Gérard Mainfray et Claude Banus, on a un faisceau laser qui excite un jet de gaz rare pulsé. Le rayonnement qui sort de cette source-là est réfléchi sur un réseau recouvert d'or toroïdal et on regarde ici le spectre des fréquences qui sont émises. Et vous voyez ici l'intensité de l'harmonique d'ordre P en fonction de l'ordre de l'harmonique 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31. On voit d'abord qu'on a des harmoniques très élevées. Mais ce qui est remarquable sur cette figure, c'est qu'on s'aperçoit qu'il y a un plateau. L'intensité commence à décroître, puis elle reste constante pendant un certain intervalle de temps, et puis elle décroît. Alors ça, ça montre clairement qu'on est dans un régime non perturbatif. Parce que si on était dans un régime perturbatif, ça devrait descendre très rapidement avec l'ordre de l'harmonique. Alors ça, c'était un problème qui a été extrêmement stimulant pour les théoriciens comprendre ce qui se passait. Voilà un exemple de spectre d'harmonique. C'est très joli, on voit. Maintenant, on arrive à faire des harmoniques jusqu'à 221. Donc on part d'une fréquence optique et on arrive dans l'ultraviolet très lointain. Alors, l'explication a été donnée par Kullander et Korkum, et elle est schématisée ici. On est dans un régime où le champ laser est tellement intense qu'on revoit maintenant l'ionisation multiphasique d'une autre manière. J'ai dessiné ici le potentiel de Coulomb dans lequel se trouve l'électron. Quand l'amplitude du champ laser augmente, il faut ajouter au potentiel de Coulomb le potentiel électrique du champ laser, qui est quelque chose qui va être linéaire. Et on obtient une courbe pour le potentiel qui est penchée comme ça. De toute façon, l'électron qui est ici peut sortir de l'atome, non plus par absorption de p-photons, mais par effet tunnel. L'électron donc quitte l'atome par effet tunnel et il part. Mais il part, il va commencer à s'éloigner, mais à ce moment-là, le champ laser change, et la droite que j'ai définie ici change de pente, et elle ramène l'électron vers l'ion. Donc l'ion sort, l'électron sort de l'atome par effet tunnel, et puis le champ électrique va le ramener vers l'ion. Et puis, donc il va être accéléré, il arrive vers l'ion, et il se passe à ce moment-là deux choses, l'une ou l'autre, ou bien il est freiné par le champ de l'ion, il retombe dans l'état fondamental en émettant P photon, ou bien il est accéléré, il fait le Bremsstrahlung, il fait du Bremsstrahlung inverse, et à ce moment-là il va aller dans les pics d'ionisation au-dessus du seuil. Donc les pics d'ionisation au-dessus du seuil, la génération d'harmoniques, apparaissent ici dans un même cadre. Et ce cadre-là n'implique pas une interaction successive, il faut le décrire en termes d'effet tunnel et de trajectoire. Et il y a eu un article récent, qui est paru donc il y a 2 ans, de Pascal Salière et d'autres chercheurs, dont Machiek et Manstein, quand ils étaient attaqués, qui ont montré que les intégrales de chemin de Feynman étaient très bien adaptées à ce problème, et ils ont pu montrer qu'on pouvait introduire des intégrales de Feynman pour calculer cette amplitude de transition, et qu'on pouvait distinguer dans l'intégrale de chemin plusieurs contributions correspondant à des trajectoires classiques bien définies. Et ils ont pu donc donner un éclairage complètement nouveau sur ce type d'effet non perturbatif. Ça a été vraiment une contribution théorique très brillante, montrant, je crois, pour une des premières fois, l'application des intégrales de chemin de Feynman à un problème de physique atomique. C'est vraiment quelque chose de non perturbatif. Alors, quelques retombées de ces études, elles sont nombreuses. D'abord, on dispose maintenant de nouvelles sources de rayonnement ultraviolet, parce que, par exemple, à Michigan, on a pu observer des harmoniques 221. C'est-à-dire que si on part d'un photon d'un électronvolt, on arrive à des rayonnements de 3,6 nanomètres dans l'ultraviolet lointain. Donc ça devient des sources de rayonnement ultraviolet, de brillance intéressante, de durée très courte et de cohérence intéressante, ce qui entre en compétition avec le rayonnement synchrotron. D'autre part, si ce peigne de fréquence correspondant au plateau, si les harmoniques de ces différentes harmoniques d'ordre croissant sont cohérentes, à ce moment-là, en les recombinant, on peut faire des impulsions extrêmement brèves. Et maintenant, on commence à faire des impulsions sub-femtosecondes, plus petites qu'une femtoseconde, que les gens appellent atosecondes, avec ces générations d'harmonie. Donc, il y a une potentialité très importante dans le développement d'impulsions de très courte longueur d'onde d'une part et de très courte durée d'autre part. Enfin, je voudrais terminer par la discussion de quelques effets nouveaux apparaissant en très haute intensité, et ça c'est dû au fait qu'il y a eu une percée il y a quelques années, due en particulier à un physicien français qui travaille à l'université de Ann Arbor à Michigan, Gérard Moreau, et qu'on appelle les amplifications d'impulsion à dérive de fréquence. En général, quand on veut amplifier des impulsions laser, on se heurte à la difficulté suivante, c'est que quand l'impulsion devient suffisamment intense, après avoir été amplifiée un certain nombre de fois, elle devient tellement intense qu'elle crée des dommages dans les cristaux qui permettent de l'amplifier. Et donc on est limité, il faut prendre d'énormes cristaux, et ça fait des installations gigantesques pour faire des lasers de puissance. L'idée de Gérard Moreau a été de prendre une impulsion laser courte, très brève, de faible puissance, et avant de l'amplifier, de la faire passer dans ce qu'il appelle un étireur, deux réseaux parallèles comme ceci, qui permettent d'étaler dans le temps l'impulsion. On dit, au lieu d'avoir une impulsion de, je sais pas moi, de une femtoseconde, de 10 femtosecondes, on l'étale par un facteur 100 ou 1000. Donc son intensité diminue considérablement. Mais elle dure plus longtemps. L'énergie est la même, mais elle est répartie dans le temps de manière plus... L'intensité instantanée est beaucoup plus faible, et elle est suffisamment faible pour pouvoir être amplifiée de manière considérable. Et après, donc on l'amplifie avec un amplificateur, elle est large, et après avec un dispositif symétrique de celui-ci, on la recomprime, on fait rattraper les fréquences qui sont allées plus vite par rapport à celles qui sont allées moins vite, et on obtient de nouveau une impulsion extrêmement brève, mais sans la faire passer par des cristaux, simplement en la recomprimant par ce système-là. Et on a donc la possibilité d'atteindre des puissances considérables sans démolir les cristaux qui permettent d'amplifier et qui permettent d'obtenir dans des laboratoires de type universitaire, dans des pièces de 10 mètres sur 10, on appelle des tabletop, le montage de table, on arrive à créer des impulsions qui durent quelques 10 moins 15 secondes et qui atteignent des puissances de 10 puissance 10 terawatts, c'est-à-dire 10 puissance 13 watts. Ce n'est pas des watts par centimètre carré, c'est l'énergie totale. Et si on a des centres un peu plus grands, plus importants, de type facilité universitaire, on peut arriver aux 10 puissance 15 watts. Alors, à ces énergies, une impulsion laser de 10 puissance 13 watts à 1053 nanomètres donne des éclairements lumineux de 10 puissance 19 watts par centimètre carré. Tout à l'heure, je vous parlais de 10 puissance 13 watts par centimètre carré, maintenant on arrive aux 10 puissance 19 watts par centimètre carré. À ces éclairements, bien sûr, le milieu est totalement ionisé. Et les électrons oscillent dans le champ laser avec des énergies cinétiques, des vibrations élevées, qui atteignent maintenant 1 MeV. C'est-à-dire qu'elles sont plus grandes que l'énergie de masse de l'électron qui vaut 0,5 MeV. Le champ laser, dans ces impulsions, atteint 10 puissance 11 volts par centimètre, qui est beaucoup plus grand que le champ de Coulomb, entre l'électron et le proton dans les paramètres de l'hydrogène, qui est de l'ordre de 5 10 puissance 9 volts par centimètre. Donc on est réellement dans un régime relativiste. Et de nombreux effets magnétiques nouveaux apparaissent, ils commencent à être explorés, mais ils s'avèrent sans doute très très prometteurs. Je voudrais juste en signaler un ou deux. Je donne ici simplement une courbe qui est extraite d'un article de Gérard Moreau, Barry et Perry, dans Physique CD 98, simplement pour vous montrer souvent comment une rupture technologique permet de changer la physique. Ça, c'est en fonction du temps, l'intensité focalisée des lasers, en watts par centimètre carré. Voilà, au début, les gens ont fait des intensités élevées en faisant du mode déclenché, du Q-switch ou du blocage de mode, et puis on a atteint un plateau. Et l'amplification à dérive de fréquence que je viens d'expliquer a changé le pan de la courbe, et maintenant on est reparti vers le haut, et les intensités des lasers croissent de manière régulière. On arrive donc maintenant à réaliser en laboratoire des conditions qui règnent en astrophysique. Il y a une discipline qui s'appelle l'astrophysique de laboratoire qui est née. Alors je voudrais donner un exemple, parce que je le trouve particulièrement intéressant. C'est l'accélération d'électrons par l'onde de sillage créée par une impulsion laser dans un plasma. Quand on envoie une impulsion laser dans un plasma, le champ électrique et le champ magnétique de l'impulsion qui arrive sur le plasma poussent les électrons de manière extrêmement efficace et les électrons réagissent tout de suite, ils sont poussés par l'impulsion, beaucoup plus que les ions, qui sont plus lourds d'eau. D'accord ? Donc les électrons sont déplacés, il apparaît donc un déplacement de charge, donc des champs électriques extrêmement importants, et donc l'électron qui progresse dans le plasma fait une onde de signalage de la même manière qu'un navire qui marche sur la mer crée une onde de signalage qui le suit. Et les oscillations de charge associées à l'onde de sillage, créées par l'onde de plasma, créent des champs électriques très intenses qui peuvent accélérer un électron. En quelque sorte, l'électron surfe sur l'onde de champ électrique créée par l'impulsion laser qui traverse le plasma. Et ce qui est remarquable, c'est que les champs électriques sont tellement intenses que l'électron peut être accéléré de manière considérable. Alors évidemment, s'il est accéléré, il va aller de plus en plus vite, il va quitter l'onde, comme le surfeur qui va sortir de la vague. Mais comme l'onde laser se propage à une vitesse très proche de la vitesse de la lumière, l'interaction peut durer suffisamment longtemps avant que l'électron ne la quitte, quitte l'onde de sillage, et l'électron peut arriver à des intensités, à des accélérations très très importantes. Et je voulais juste donner un chiffre. Récemment, dans un ou deux ans, au LOA, au laboratoire d'optique appliquée à Orsay, dans l'équipe de Victor Malka, des faisceaux d'électrons de 200 mètres ont été obtenu par cette technique avec une distance d'accélération de seulement 1 mm. Donc en 1 mm, les électrons sont accélérés de 0 à 200 mètres. Donc vous voyez, ça fait un effet considérable. Et il y a eu récemment dans le Physics Today, je crois, oui, dans Physics Today, de juin, un article très intéressant dont je vous recommande la lecture qui discute un petit peu de l'évolution des accélérateurs de particules, des accélérateurs d'électrons. Donc c'est Joshi et Katsouleas. Ils donnent en fonction de l'année l'énergie des faisceaux d'électrons avec les accélérateurs traditionnels qui, vous voyez, qui semblent saturer un peu et qui tendent vers les 200 GeV. Ça, c'est 1 MeV, 1000 MeV, c'est-à-dire 1 GeV, 10 GeV, 200 GeV. Et ici, avec une pente qui est apparemment beaucoup plus forte, les accélérateurs à onde de sillage. Ça, c'est un projet, ce n'est pas réalisé. Mais vous voyez que le record est actuellement détenu par le laboratoire d'optique appliquée. Le résultat que je viens de mentionner, 200 mètres obtenu en 1 mm. Donc, il n'est pas clair. Est-ce que ça va continuer à monter? Est-ce que, en tout cas, c'est des accélérateurs qui sont relativement tabletop sur une table, qui peuvent donc avoir des applications autres que la physique de haute énergie, mais qui peuvent être utilisées pour la médecine, la radiographie. Il y a toute une série d'applications qui peuvent être trouvées. Autre grande première que je voulais aussi mentionner, c'est ce qu'on appelle l'autofocalisation relativiste, et ça c'est un effet non linéaire qui est extrêmement amusant, qui est le suivant, c'est que quand on a un plasma, vous savez que dans le plasma, il y a un indice de réfraction, n, qui est racine carrée de 1 moins oméga p carré sur oméga 2, où oméga est la fréquence de l'onde qui arrive dans le plasma, et oméga p la fréquence de plasma, qui est donnée par la formule 4 pi n0 et 2 sur n gamma, où n0 est la densité d'électrons, et 2 le carré de la charge de l'électron, et gamma 1 sur racine de 1 moins v2 sur c2, le facteur relativiste. Donc quand v se rapproche de c, gamma tend vers l'infini. Hein. Et vous voyez qu'au centre du faisceau laser, où l'intensité est maximale, la vitesse v est la plus grande, donc gamma est très grand, comme il est au dénominateur oméga p est très petit, diminue, et n augmente. Donc cette variation de la fréquence de plasma due à la variation de la masse avec la vitesse, m gamma c'est m sur racine de 1 moins v2 sur c2 sur la masse relativiste. Cette variation de la fréquence de plasma due à l'effet de masse relativiste change l'indice de plasma, et l'indice de plasma est plus grand au centre que sur les bords. Donc ça fait une lentille, et l'onde laser est focalisée dans le plasma, c'est ce qu'on appelle l'autofocalisation relativiste. Il y a un autre effet qui apparaît, c'est que, à cause de la force pondéromotrice que j'ai mentionnée à plusieurs reprises, comme l'intensité du laser est maximale au centre du faisceau laser, les électrons sont expulsés de cette région et il y a une diminution de la densité d'électrons au centre du faisceau laser. Et comme la fréquence plasma est proportionnelle à n0, oméga p va diminuer au centre et donc n va augmenter au centre, c'est aussi un effet de focalisation. Et ces deux effets combinent pour donc focaliser le faisceau laser. Et ça, c'est intéressant parce que si on autofocalise le faisceau laser, ça permet une interaction sur une plus grande distance. Parce que le problème important dans tous ces essais, c'est de garder une interaction qui se prolonge sur une distance suffisamment grande. Voici des résultats qui ont été obtenus donc, en France, à Limeil et à Saclay. Donc voilà le principe de l'expérience. Donc on a un laser qui est focalisé. Si on envoie un jet de gaz rare, ce laser est focalisé, tel que ça c'est le résultat expérimental. On voit très clairement une structure qui est une structure à plusieurs maxima comme ça, qui est caractéristique d'une autofocalisation. Il y a enfin un dernier essai que je voudrais mentionner, parce que je trouve que c'est encore une très belle illustration de l'utilité des diagrammes énergie-impulsion, qui est une source de photons gamma. Si on a un faisceau d'électrons de grande énergie, et qu'on envoie un faisceau laser tête bêche, les photons peuvent rebondir sur les électrons et donner un effet par effet Compton, un rayonnement Compton vers l'arrière. Et si les électrons ont une très grande énergie, les photons Compton diffusés vers l'arrière ont une énergie beaucoup plus grande que les photons incidents. Et ça se comprend très facilement avec les diagrammes épais. Le diagramme épais d'un électron relativiste est dessiné ici. Ce n'est plus une parabole. La relation entre E et P pour un électron relativiste, c'est E égale racine de C2P2 plus M2C4. Donc c'est une parabole au début, et puis pour les grands P, c'est une droite CP, une droite de pente sur C ou moins C. Et l'effet Compton peut être interprété comme un effet Raman. En effet, l'effet Compton, on a un électron qui est en ce point, avec une certaine impulsion, qui absorbe un photon, et puis qui émet de manière similaire un photon un photon dans la direction opposée. Donc il monte avec une pente moins C, et puis il remet le photon avec une pente plus C. Et il termine ici. Et la conservation d'énergie et impulsion implique que partant de là, on doit arriver là. Mais vous voyez que si on est très haut ici dans ce diagramme, et si on absorbe donc un photon opposé au faisceau d'électrons, vous voyez que la deuxième droite qu'on trace ici a une pente qui est C, qui est très voisine de la pente de la courbe au voisinage de son asymptote. Donc il fallait très très bas ici pour réintersecter la courbe. Et ce petit schéma permet de comprendre tout de suite pourquoi l'effet Compton vers l'arrière, quand on part d'un électron de très grande énergie, peut donner naissance à un photon vers l'arrière de très très grande énergie, de très courte longueur d'onde. Effectivement, je crois que l'ordre de grandeur, c'est que si on a des électrons de 250 GeV et qu'on a un photon de 1 électronvolt dans une direction, le photon qui est mis vers l'arrière a 200 GeV. Oui, le facteur d'amplification est énorme parce qu'on est tout près de l'asymptote et donc les deux droites, la droite est pratiquement parallèle à la courbe, il faut aller très bas pour satisfaire la conservation d'énergie et d'impulsion. Alors ça c'est intéressant parce que ça fait des sources de photons gamma et on peut aussi d'ailleurs en réalisant deux faisceaux d'électrons par les méthodes précédentes faire des collisions gamma-gamma, faire deux faisceaux gamma et envisager de faire des collisions gamma-gamma. Donc vous voyez que c'est un domaine qui bouge beaucoup. Les ordres de grandeur dans la puissance augmentent de jour en jour, il y a des phénomènes nouveaux qui sont étudiés, et c'est très amusant, je crois, de voir comment le domaine des processus d'ordre supérieur multiphotonique est parti au cours des 50 dernières années de choses très simples, comme les transitions à deux photons, trois photons, entre deux sous-niveaux Zeeman, puis est passé au domaine optique, à l'ionisation multiphotonique, à l'ionisation au-dessus du seuil, qu'il arrive maintenant dans un domaine qui, je ne dis pas entre en compétition, mais peut parler d'égal à égal maintenant presque avec la physique de l'énergie, la physique des grands accélérateurs. Donc ça montre très bien comment des nouvelles possibilités peuvent s'ouvrir à la suite de développements théoriques expérimentaux importants. Bon, alors la semaine prochaine, c'est le 11 novembre, je n'aurai pas cours, donc, et le 18 novembre, j'aborderai l'étude des superpositions linéaires d'états et des effets d'interférence quantique. Voilà, je vous remercie.